le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce magazine citoyen. On va s'intéresser ce midi au bien-être animal. Dans quelques instants, on sera en ligne avec Olivier Berthelot, le président du SIGN, qui gère notamment la fourrière de Ducos. Nous sommes aussi en plateau avec Thibaut Raffard, chargé de mission bien-être animal au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, et deux responsables d'associations, Michel Gauthier, le président de la SPANC, et Virginie Sala, la présidente d'Animal Action NC. Bonjour à tous les quatre, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, on parle de ce sujet du bien-être animal et on en reparle puisqu'il y a eu une inauguration cette semaine. Ça s'est passé du côté de la fourrière de Ducos avec une aire de détente qui a été mise en place pour les animaux. C'était une demande des associations. Peut-être, Michel Gauthier, nous en parler. Pourquoi mettre en place une aire de détente dans cette fourrière ?
C'est fondamental pour le bien-être des animaux, puisqu'on en est là. Hein, des animaux qui sont dans des boxes pendant des semaines ou voire des mois, c'est terrible. D'autant que, surtout si on a la prétention à la fourrière de vouloir les faire adopter. Il faut absolument que ces animaux puissent sortir, se détendre, jouer, être avec d'autres animaux et avoir un contact humain avec les personnels. C'est fondamental pour leur équilibre.
Alors, qu'on rappelle un petit peu peut-être le parcours de ces animaux qui arrivent à la fourrière, comment ça se passe et ensuite, quelle est la suite pour eux ?
Alors, l'animal qui arrive en fourrière, c'est forcément le propriétaire qui le laisse en divagation. Après, il peut y avoir des accidents de clôture, ça arrive. Je voulais rebondir sur le parc de jeux. C'est une demande que nous, associations du collectif APANC, avons portée très largement depuis des années, parce qu'entre autres, on demandait une modification justement du fonctionnement de cette fourrière. Et le parc de jeux était une obligation, parce qu'on ne peut pas garder un animal trop longtemps dans son box, c'est de la maltraitance. Donc il fallait absolument ce parc de jeux. Et par bonheur, grâce à Olivier Berthelot et le nouveau directeur, on a enfin été entendu.
Alors justement, nous sommes en ligne avec Olivier Berthelot.
Je précise que ça a été financé par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Oui, justement, ça c'est important aussi de le redire, puisqu'on le sait, le syndicat intercommunal du Grand Nouméa n'avait pas forcément les moyens de le mettre en place. Il a fallu une subvention du gouvernement.
C'est surtout que ça s'inscrit en fait dans la notion de bien-être animal, justement, que défend le gouvernement auprès des associations. La fourrière, au départ, c'est surtout pour éviter quand même, à la base, les désagréments liés aux animaux en divagation. Hein. C'est clairement historiquement la mission de ces établissements, mais c'est vrai que notre sensibilité maintenant au devenir de ces animaux nous pose question sur la façon dont ils étaient gérés historiquement. Et donc le gouvernement, avec les moyens réduits qu'on a, qui se réduisent de plus en plus, on a quand même réussi à sauver une enveloppe pour venir justement rectifier le tir là-dessus.
Alors, il y avait l'inauguration cette semaine, mais ça fait déjà un petit moment que c'est en place, cette aire de jeu. Est-ce qu'on sent déjà un changement du côté de cette fourrière ?
Oui. D'ailleurs, les vétérinaires le confirment. Pendant les visites, c'est beaucoup plus calme. Moi, quand j'ai commencé à aller à la fourrière il y a 5-6 ans, on pouvait avoir 6, 7, 8 animaux par box. Et tous les jeudis matins, on avait la liste noire. Il y avait entre 10 et 15 animaux tués. On n'est plus du tout dans cette configuration-là. Les animaux sont beaucoup plus sereins parce que justement, ils ont accès à la sortie. Ça aussi fait beaucoup de bien parce que au niveau des agents, on voit les interactions avec les animaux qui ont complètement changé. Avant, les agents se bornaient à ouvrir la porte, passer une gamelle, refermer la porte ou passer un coup de jet. Là, maintenant, ils sont obligés, entre guillemets, de manipuler les animaux. Donc, on voit qu'il y a le rapport qui a été complètement changé et amélioré.
Donc, ces animaux, finalement, ils sont dans des meilleures conditions et évitent l'euthanasie, c'est ça que vous êtes en train de nous dire ?
Alors, ça n'évite pas l'euthanasie, mais par rapport à ce qui se passait auparavant, avant que les assos soient mis à bosser sur le sujet, je vous dis, c'était entre 10 et 15 animaux toutes les semaines qui étaient tués. Là, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il n'y a plus d'animaux tués toutes les semaines. Ça arrive malheureusement, parce qu'il faut toujours imaginer qu'on le regrette et qu'on le réprouve.
Mais ça ce sont des animaux dont les propriétaires ne viennent pas les chercher ou alors qui ne sont pas adoptés, hein, c'est ça ?
Voilà, il y a des propriétaires aussi qui sont au courant que leur animal est en fourrière et qui disent... Moi, il y en a un qui m'a répondu une fois, « Seb, c'est bon, tu peux le piquer ». Voilà, parce que l'animal n'est pas encore considéré comme un être vivant doué de sensibilité. C'est comme un objet. Tu prends mon chien, c'est pas grave, casse pas la tête, je vais en retrouver deux ce soir.
D'ailleurs, c'est un des axes sur lequel on travaille, notamment avec la sensibilisation qu'on fait en milieu scolaire. On a fait le choix de se concentrer vraiment sur les CM1, CM2, parce qu'on sait que c'est à cette période-là qu'ils sont quand même très sensibles à ce sujet et qu'ils ont aussi les outils pour comprendre en fait ce qu'on leur explique, parce que j'interviens dans les classes en deux séquences d'une heure. Et donc, ça permet aussi de faire un rappel quand je reviens. Et ça permet notamment de leur apprendre qu'il y a des choses qui sont interdites par le code pénal. Et ça, ils sont étonnés. Ils ne le savent pas, par exemple, que l'abandon est interdit, que même tuer l'animal. J'ai eu des enfants qui étaient étonnés. Que, ah bon, on ne peut pas tuer son animal. C'est-à-dire, moi, j'ai eu un enfant qui m'a dit, mais mon tonton, il en avait marre de son chien. Il lui a mis un coup de calibre 12. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on change la mentalité, je le disais tout à l'heure à la préparation de la réunion, de cette interview. Par exemple, il y a des gens, ils achètent un chien, un chat, un pigeon, une perruche, comme on achète un pot de hachard au marché. C'est-à-dire que c'est un achat coup de cœur, pas réfléchi, et puis on rentre à la maison, on se rend compte que ça pose des problèmes, donc par exemple on va l'attacher, effectivement parce qu'on n'a pas clôturé le jardin, et ça pose des vrais problèmes sur... qu'est-ce que c'est qu'un animal en
Alors que c'est un engagement sur des années, voire parfois des décennies.
C'est une douce condamnation à des dizaines d'années d'amour.
Bon, c'est bien dit.
C'est bien dit.
Mais ça implique des responsabilités, des devoirs. Si on reprend le cas des animaux à l'attache, par exemple, il y a beaucoup de gens qui prennent un chien pour l'attacher. J'en ai sorti un il n'y a pas très longtemps de maltraitance qui était attaché très court pour protéger la voiture parce que le portail n'était pas fermé pour des commodités humaines. Donc, le malheureux était là, chargé de garder la voiture. C'est un chien qui a passé toute sa vie attaché. Il en était à se faire de l'automutilation et de se manger les pattes. Moi, je prends souvent l'exemple, parce que j'interviens aussi dans les collèges et les lycées. Je parle à tout le monde du confinement. On a tous été confinés et on a tous plus ou moins subi ça, voire pété les plombs. On avait une chance à cette époque-là, c'est qu'on pouvait se faire une autorisation de sortie pour une heure. Le chien que vous attachez H24 ou celui que vous maintenez en cage, il est en confinement permanent toute sa vie. Et l'autre image que je prends, c'est est-ce que les gens accepteraient que leur salle à manger, leur toilette et leur lit soient dans les mêmes 2 mètres carrés autour d'une chaîne? C'est pas possible, c'est pas des conditions de vie et c'est une douleur inouïe qui est infligée à l'animal.
C'est un combat aussi pour vous, Michel Gauthier ?
Oui, parce que cette sensibilisation, on va reprendre dans les collèges ou en école primaire pour la sensibilisation. Mais parce qu'à travers les enfants, on arrive à faire monter des informations quand même vers les parents. Parce que ce que l'on voit en général, c'est une méconnaissance du statut de l'animal, même de ses on nie des fois ses possibilités émotives. Et ça, c'est important lorsqu'on vient adopter, non pas acheter un animal à la SPANC, on dit à chaque fois non, vous adoptez, il y a un contrat d'adoption, c'est différent, c'est pas un acte de vente. Et ensuite, il faut savoir que, souvent je dis aux gens, mais un chien, il peut comprendre 150 mots. Ils sont surpris. Mais oui, mais il faut parler à son chien. Il faut l'éduquer. Et d'ailleurs, le chien a des sourcils qui sont mobiles que n'a pas le loup dont il descend. Hein, donc, à force d'être à notre contact. Et le chien et le chat ont besoin de cette affection. On a récupéré une chienne qui était une usine à chiots, excusez-moi du terme, parce qu'elle était attachée à H24 dans un lotissement. Eh bien, à cette chienne, on l'a récupérée, mais elle a pas il lui a manqué ce contact avec l'humain qui est fondamental. À la SPANC, on fait sortir les animaux au moins 4 fois par semaine. Ils ont tous les jours un contact avec les employés, qui les mettent pour certains dans les parcs. Mais surtout, c'est le contact avec les bénévoles. Ils les promènent, ils jouent avec. Et ça, c'est fondamental, parce qu'il s'agit de faire réadopter l'animal.
Thibaut Raffard, vous évoquiez tout à l'heure le phénomène quasiment historique, peut-être des chiens errants. Il y a eu des grandes campagnes de stérilisation de la part du gouvernement de la province sud. On en est où sur ces sujets-là? Et est-ce qu'il y a toujours autant de chiens errants en Nouvelle-Calédonie?
Alors, j'ai envie de dire que la situation est même en train de s'aggraver, en fait. Depuis un an, on constate à nouveau dans les quartiers des meutes de chiens errants, parfois, souvent d'ailleurs, avec des colliers. Alors, est-ce qu'ils sont en errance? Est-ce qu'ils sont définitivement abandonnés? Ça, c'est pas forcément facile à dire. Mais clairement, la situation se dégrade depuis un an, moi, je trouve, en constatation. Il y a quand même eu plus de 8000 animaux qui ont été stérilisés depuis la mise en place de ces... ces campagnes, mais bon, ça date de 2014, ça a commencé en 2014, donc c'est vrai que tout dispositif est certainement amélioré, mais bon, ça a été une décision qui a été prise, parce que moi, je souhaite appeler la vigilance des auditeurs sur une stérilisation, par exemple, pour une chatte, au bout de 4 ans, on peut estimer que c'est plus de 20 000 naissances qui sont évitées. Possiblement, parce que en fait, on parle souvent des lapins qui ont une capacité de reproduction proverbiale, mais chez les chats, au bout de 6 mois, la chatte peut avoir des petits.
3-4 mois pour les chats, 6 mois pour les chiennes.
Donc, ça peut aller très vite, quoi. Ça peut aller très vite. Et du coup, ça, vraiment, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on mette l'accent. Et malheureusement, avec les problèmes qu'on a eu au niveau du budget de la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas de nouveaux crédits qui sont inscrits cette année pour l'instant. En 2025, mais il y a des reliquats de crédit sur des campagnes précédentes, donc on peut quand même toujours stériliser avec une aide, mais on incite évidemment même les gens qui sont dans ce dispositif à participer à minima aux frais vétérinaires tout de même.
Parce que finalement, un chiot qui ne naît pas et qui se retrouverait à la rue, c'est finalement...
Voilà, et puis en plus, ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les portées qui sont faites, donc soit à dessein pour les vendre ou les échanger, soit les portées accidentelles. Quand vous avez une portée de 10-12 chiots, vous ne trouvez pas forcément acquéreur pour les 10 ou 12. Donc c'est ceux-là qu'on va retrouver en divagation. Et moi, par rapport à ce que vient de dire Thibaut, j'insisterai beaucoup sur le problème qu'on rencontre des chats. C'est une catastrophe. Ça fait un moment qu'on interpelle les autorités sur les problèmes de chats. Quand on fait du terrain, on voit qu'il y a des chats de partout. Quand on sait qu'un couple de chats, c'est 20 400 individus au bout de 4 ans, je pense que dans 4 ans, éventuellement, on va nous annoncer des battues pour réguler les chats, alors que nous, on appelle de nos voeux des méthodes un peu moins barbares et prises en amont. Parce qu'on a vraiment un gros, gros, gros problème de chats. Toutes les associations débordent de chats et de chatons. Prendre le chiffre des 100 voix, rien que sur un mois, elles ont dû en récupérer une trentaine de chatons. C'est phénoménal.
Et ça, c'est un phénomène relativement nouveau.
C'était tous les ans, on avait ce qu'on appelait, il pleut des chatons, il y avait la saison des pluies de chatons. Bon. Mais là, depuis un an, c'est sans fin, ça n'arrête pas.
L'autre problème, c'est qu'effectivement, cette multiplication des chats, on m'en parle aussi, je rencontre certains ménagers dans les loyautés, ils sont sidérés du nombre de chats errants, des chats arrêts, parce que ces animaux vont perturber l'écosystème et risquent de mettre en péril des oiseaux rares, endémiques à la Calédonie. Donc il y a un gros problème écologique et il faudrait que les élus puissent réagir à ça.
Est-ce qu'on peut justement travailler avec les communautés, les populations locales pour mettre en place des choses? Est-ce que ça passe aussi par ce biais-là?
Alors, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent. Moi, je suis en train de travailler sur justement la protection de la biodiversité et essayer de réguler les chats. Parce qu'en métropole, depuis 10 ans, ils capturent les chats, ce qu'on appelle les chats arrêts ou les chats libres. Ils capturent les chats, ils les stérilisent, ils les identifient et ils les laissent sur site. Parce que le chat est un animal qui est grégaire. Le chat stérilisé, identifié sur place, va empêcher l'arrivée de nouveaux. Donc forcément, à un moment, si tout le monde est stérilisé, ça va s'éteindre. Et ça, c'est la méthode qui fonctionne et qu'on doit appliquer, parce que capturer et tuer les chats, d'une part, c'est barbare. D'autre part, ça coûte de l'argent, c'est un puissant fond, parce qu'on peut faire ça tous les jours, et ça ne règle en rien le problème. Donc je suis en train d'essayer de voir avec certaines autorités pour voir comment on peut faire pour régler ce problème, parce qu'a priori, toutes les communes, que ce soit sur la Grande Terre ou dans les îles, rencontrent ce problème. Mais l'histoire, c'est que les assos, on est comme la Calédonie, le budget, ils sont au fond du trou. Donc, sur nos fonds propres, on ne va pas y arriver.
Thibaut Raffard, sur cette question peut-être, puisqu'on voit qu'il y a des projets qui essayent de se monter avec les autorités, le gouvernement en fait partie, évidemment. C'est une question centrale. On sait que c'est Isabelle Chamorreau qui a la charge de ce secteur. Vous êtes chargée de mission bien-être animal au gouvernement. Est-ce que vous êtes sensible à ces méthodes, à ces arguments sur la question des chats notamment? Est-ce que vous avez de quoi les financer?
Alors, évidemment, on y est sensible. Les financer, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai qu'on a conscience qu'effectivement, par exemple, sur les surpopulations de chats, ça ne sert à rien, effectivement, de vider... parce que ça se remplit. Donc ça, on a bien conscience que c'est des dispositifs en plus innovants en termes un peu juridiques, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il va falloir que ces chats ne seront pas vraiment la propriété de quelqu'un. Donc il faudra quand même prendre en charge leur stérilisation, mais après, les cadres sont faits pour évoluer aussi. Donc on a quand même essayé d'apporter notre soutien l'an dernier au secteur avec des achats de croquettes, parce que c'était une demande des associations qui étaient aussi en difficulté financièrement. Cette année, on va essayer de reconduire ces dispositifs, mais c'est vrai que le nerf de la guerre, c'est l'argent, et qu'il va falloir effectivement qu'on trouve des pistes là-dessus.
Alors, on pensait avoir la chance d'être en ligne avec le président du syndicat intercommunal du Grand Nouméa, Olivier Berthelot. Finalement, nous sommes en studio avec son directeur. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a évoqué en début de cette émission ces innovations à la fourrière de Ducos. On le disait globalement autour de ce plateau que ça a été une véritable amélioration et un grand pas en avant pour la fourrière. C'est ce que vous pensez aussi, vous, de votre côté, vous gérez le site?
Bien sûr, c'est un peu l'aboutissement, disons que c'est une avancée dans les travaux qui sont conduits sous la direction du président du Cygne, qui est arrivé début 2023 et qui, dès son arrivée, a souhaité quand même changer un peu l'approche de la fourrière, qui historiquement, pour des bonnes raisons aussi, c'est-à-dire que la pression qui existait en termes de chiens errants il y a 10 ans n'est plus la même aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait avoir une approche différente du problème des problèmes de divagation. Et puis maintenant, effectivement, le nouveau problème qui apparaît des trop nombreux chats. Et puis les mentalités globales ont évolué. On accompagne aussi le mouvement. Donc l'idée, c'est de toujours remplir notre mission de protéger l'espace public. Ça, c'est notre préoccupation. Mais en étant tout à fait conscient que on travaille avec des animaux qui sont des êtres sensibles et on n'est pas là pour les faire souffrir plus que ce qu'ils souffrent déjà en étant dans la rue et maltraités par leurs propriétaires. Donc oui, ça s'est concrétisé notamment par le fait que maintenant on va pouvoir promener les chiens qui restent très longtemps au chenil, ce qui n'était jamais le cas avant. D'abord, ils restaient pas très longtemps et ensuite on n'avait pas les infrastructures pour. Ça a été rendu possible parce qu'on a moins de chiens. Mais on a plus de chats.
Changer les méthodes de capture aussi, ça c'est un point important. Avant c'était un ramassage systématique, et ce qui est plus le cas, ça explique aussi pourquoi vous avez moins de chiens. Et c'est plus bénéfique parce que c'est pédagogique pour le propriétaire.
Tout à fait. On se focalise plus en fait sur les maîtres qui sont défaillants, parce que les animaux qui divaguent, la plupart, c'est pas des meutes de chiens errants hors de contrôle de tout le monde. La plupart des chiens qui se retrouvent à la fourrière, c'est uniquement des propriétaires qui sont négligents, qui se soucient pas de leur voisinage, donc qui se disent mon chien est gentil dans le meilleur des cas, ou bien c'est parfait, ça va éloigner les importuns dans le pire des cas, et qui considèrent que l'espace public leur appartient. C'est ça, notre cible. Et donc c'est vrai que maintenant, on a demandé aux gardes champêtres de travailler beaucoup plus dans ce sens-là, de se dire le problème, c'est le maître, c'est pas forcément l'animal, même si on est là aussi pour enlever les chiens de l'espace public.
Donc finalement, le fait que vous ayez moins d'activités qu'il y a 10 ans, c'est pas parce qu'il y a moins de chiens errants forcément, c'est parce que aussi vous avez changé vos méthodes et vos stratégies.
C'est les deux.
Parce que les assos ont enfin été entendus.
Ça, on sent que les associations ont aussi un rôle finalement dans les politiques publiques qui sont mises en place dans ce domaine. Elles sont importantes, les associations.
J'ai aussi envie de dire, parce que je pense que c'est le message clé, si on n'avait que des propriétaires responsables, on ne serait pas autour de la table.
Quelque part.
C'est pas une obligation d'avoir des animaux domestiques. Personne, c'est pas une fatalité non plus. Et il y a un vrai problème quand même dans le pays où les gens n'ont pas conscience de l'irresponsabilité et ensuite de tous les problèmes de politique publique que ça pose. Parce que je veux dire, personne n'est obligé d'avoir un chien pour garder sa voiture, comme on disait, ou le voisin qui a son chien pour faire anti-alarme intrusion. Je veux dire, c'est quand même, il y a un vrai problème culturel dans le pays. Hein. Il faut que les gens s'en rendent compte qu'on veut bien, nous, aux collectivités publiques, faire. Mais je veux dire, si la population ne change pas drastiquement le braquet en termes de représentation et aussi de co-responsabilité dans un quartier, parce que c'est facile de dire oui, mais la fourrière ne vient pas, oui, mais machin, faut quand même aussi que les gens se mobilisent. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous, régler tous les problèmes d'inconsistance et de manque de responsabilité des gens qui, effectivement, comme je le disais... Hein, et puis, ce n'est pas normal aussi qu'on vende des animaux comme on vend un pot de hachard, je le disais tout à l'heure. Je ne vais pas citer le marché en l'occurrence, mais au gouvernement de la Calédonie, on a fait plusieurs rappels sur un événement bien connu des broussards, où on vend des animaux dans des cages trop petites, au soleil, sans eau, et c'est l'achat coup de cœur du dimanche, quoi. Non, on n'achète pas un chien comme un achat coup de cœur du dimanche. On le disait, il va vivre, on le laisse faire plus de 10 ans. Et des fois, on se retrouve dans la rue à récupérer des animaux. La dernière fois, presque l'animal, la chienne, avait des vers sur elle. C'était des plaies ouvertes. Et on arrive dans le quartier, on était catastrophés. Et on demande, mais bon, cette chienne est abandonnée. Non, c'est la chienne à la vieille, là-bas, elle la nourrit. Donc, distribuer 3 croquettes sur un parking avec un chien. Donc, c'est ça aussi qu'on explique en sensibilisation scolaire ou avec les jeunes, j'imagine, comme Virginie, c'est que le bien-être animal, c'est pas que manger, déjà. C'est la santé aussi, c'est un environnement qui soit cadré, comme le disait aussi Virginie, manger, faire ses besoins, dormir dans le même endroit, non, bah, on ne le ferait pas nous pour nous. Pareil pour les animaux, hein, il faut quand même un espace suffisant. Et puis c'est aussi avoir une sorte d'environnement émotionnel stable, hein, quand il y a des gens... qui se crient dessus tout le temps, qui se tapent dessus. Moi, j'ai entendu des élèves être étonnés qu'on puisse pas blesser ou taper les chiens à coups de plats de sabre d'abattu, quoi. Donc, je veux dire, évidemment, quand on voit des cas avec, par exemple, des chiennes, une chienne qui avait été le museau entortillé avec du fil de fer, c'est une catastrophe. Je veux dire, comment on peut... C'est à la limite de la psychopathie. Hein. C'est grave.
Il faut faire encore évoluer les mentalités. Est-ce que vous avez des outils de comparaison, peut-être avec d'autres territoires, j'imagine, la Polynésie française, la métropole ou autre, puisqu'on parlait du problème des chats en métropole, c'est-à-dire qu'il y a quand même des problématiques qui sont communes avec, par exemple, la métropole. Est-ce qu'on a ce genre de cas aussi dans l'Hexagone ?
Pas de manière aussi accrue. Après, de toute façon... Pour rebondir sur ce que vient de dire Thibault et pas finir sur un truc apocalyptique, on fait beaucoup de travail sur le terrain. On intervient dans les quartiers sociaux, dans les squats, enfin dans tous les quartiers en fait où il y a besoin. Et c'est ce travail de pédagogie. Alors la pédagogie, c'est répéter 100 fois la même chose, mais c'est ce qu'on fait inlassablement. Expliquer aux gens qu'un animal, c'est un mammifère comme nous, sauf les oiseaux, qui a faim, qui a froid, qui a chaud, qui a peur, qui est heureux, qui peut être joyeux. Et c'est en répétant inlassablement, en allant au contact des gens, et on voit qu'il y a des endroits où ça a bien évolué, il y a des endroits où... On a démarré le travail. Un jour, on nous a dit il y avait un chien qui était dans le caniveau en train d'agoniser. Seb, c'est bon, Seb, il va crever, laisse. Et maintenant, c'est ces gens qui sont devenus, entre guillemets, des référents parce qu'ils ont compris un tas de choses. Maintenant, ils nous appellent pour dire tu peux venir, s'il te plaît, il y a le chien qui va pas bien. Donc, c'est ce travail qu'il faut faire, continuer inlassablement avec tout notre cœur et demander aux gens qui ont un animal, s'ils l'ont déjà vu sourire. Ça fait rire, ça. Mais quand on le dit aux enfants, oui, un chien, ça sourit. Donc, mettez le sourire à vos chiens et à vos chats, à vos oiseaux, vos lapins, cochons d'Inde et tout.
Ça, c'est un beau conseil.
Là, par rapport à d'autres territoires, on peut dire qu'ici, en Calédonie, le nombre d'animaux domestiques de compagnie est considérable. Je suis allé dans un collège au Mont-d'Or il y a un an, je me rappelle, ils étaient 22 élèves, et à un moment j'ai demandé qui c'est qui a un animal domestique chez lui. 16 doigts se sont levés. Alors un chat, un chien, voire plusieurs chiens. Et dans certains quartiers, il n'est pas rare de voir des gens avec 10 chiens. Alors, des fois, ils viennent nous demander de l'aide à la SPANC. À chaque fois, on rappelle, stériliser les animaux. Arrêtez de les distribuer comme ça. Donc, ça, c'est... Donc, on a une pression considérable. Moi, pour moi, je pense que 40 à 50% de la population possède un animal domestique dans le territoire.
Hein. Mais est-ce que la crise économique, quelque part, vient pas aggraver la situation? Puisque on parlait, rien que le fait de nourrir un animal, c'est quand même un coût. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se ressent déjà sur le terrain?
Ah ben complètement, puis ça fait longtemps. Je peux vous dire que mon asso Animal Action avec les sans-voix, entre le mois de juin et le mois de décembre, on a collecté et distribué 4 tonnes de croquettes. Il faut y aller avec ses petits bras. Hein. Et tout ça pour aider les gens qui n'ont plus les moyens de nourrir leurs animaux. On a des appels au secours qui sont parfois déchirants. Et parce que les gens adorent leurs animaux, mais ils n'ont plus les moyens de les nourrir. Et ça, on a commencé dès la deuxième quinzaine de mai. On allait livrer des croquettes à droite, à gauche, dans tous les quartiers, parce que c'est dramatique. Et il y a énormément de gens qui sont toujours dans cette situation. Là, avec la fin du chômage partiel, on imagine que ça ne va pas s'arranger.
Pour rebondir sur la question précédente par rapport à la situation de la Calédonie, alors c'est vrai que on est une situation qu'on commence à bien connaître, mais par exemple, je voudrais quand même citer, pour pas être trop dépressif non plus, que par exemple, on fait mieux qu'en Polynésie française. Parce qu'en Polynésie française, il y a quelques mois, et carrément une dame a été, une touriste polonaise, je crois, est carrément morte d'une attaque de chiens, d'une meute de chiens, sur une plage en Polynésie française, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers où, par exemple, les postiers ou autres ne vont pas. Et c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, sur Nouméa, Ducos, Rivière Salée, on pouvait avoir un peu ça. Donc quand même, cette histoire de... c'est très lent de faire évoluer les mentalités, mais on voit qu'on est un peu entre les deux, je dirais, ou en métropole.
On a encore une bonne marge de progression.
Ouais, bah c'est, faut garder espoir, mais où on a le petit caniche avec son petit pull, et puis voilà, donc bon, heureusement, ici, ils n'ont pas trop besoin de pull, sauf l'hiver, quand même.
Oui, là, sur le long terme, c'est sûr que la stérilisation, travailler avec des enfants là-dessus, déjà, que les chiens et les chats n'aient plus de bébés, ça c'est important. Mais ça, il faut. C'est pour ça que les campagnes de stérilisation, c'est très important, ça nous permet de pénétrer dans les milieux. Et après, les voisins voient que la chaîne est stérilisée, ça se passe mieux. Donc, fil en aiguille, on fait des campagnes, je me rappelle au Mont d'Or d'ailleurs, pour les chaînes de rue, et ça porte ses fruits. Nos bénévoles sont allés, et puis de bouche à oreille, dans la rue au moins, ça se transmettait. On stérilisait les animaux, et ça c'est important.
Et quelque chose aussi à dire, parce qu'on parle des mentalités, une chienne ou une chatte n'a pas besoin de faire une portée dans sa vie. Ça, souvent, en Calédonie, on l'entend. Oui, mais ma chienne, je veux lui faire une première portée avant de la stériliser. Ben non, ça n'apporte strictement rien. Et presque même, c'est mieux pour sa santé d'être stérilisée par rapport au risque de cancer de l'appareil génital, notamment. Oui,
oui. Donc, il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation. Merci, en tout cas, à tous les quatre d'avoir été avec nous ce midi pour parler de ce sujet. Et on le rappelle, il faut donner le sourire à ses animaux.
Voilà.
Donc ça, c'est une grosse mission. Merci beaucoup. Émission qui sera évidemment disponible en réécoute sur notre site internet, le www.rrb.nc. Il est midi passé de 33 minutes. On marque une pause et c'est le Café Gourmand.
Le magazine citoyen avec la province Sud, une province citoyenne.
La province Sud, agir pour l'avenir.